Les poches sous les yeux, l'interview, en partenariat avec la boîte à livres.
David Fuentinos, bonjour et merci d'accepter de prendre de votre temps surchargé pour venir parler à Radio Béton de votre dernier livre.
Ah, j'ai pas eu le choix, on m'a imposé Radio Béton.
Le couteau sous la
gorge. J'avais un très gros réseau. Hein.
Donc vous êtes là contraint et forcé.
On est dans une cave là.
Donc dans quelques minutes, vous serez à la boîte à livres pour rencontrer les lecteurs pour votre dernier livre, Les Souvenirs, qui est publié chez Gallimard. Alors moi, je voulais vous demander, pour vous, ça fait partie de votre travail d'écrivain, de rencontrer les gens? Parce qu'on pourrait se dire, ça y est, le livre est fini, maintenant
pas
c'est...
Pas de travail d'écrivain, travail c'est un peu, ça serait un peu appuyé comme mot, mais disons qu'on a deux périodes de vie... Une où voilà, on est extrêmement solitaire, on écrit, et puis une autre où on rencontre les gens, on discute avec les lecteurs. Aucune obligation à ça, il y a des écrivains qui adorent rester chez eux, et d'autres qui aiment bien se déplacer, rencontrer les lecteurs. Moi, je fais plutôt partie de cette deuxième catégorie. Après, j'aime bien aller dans les librairies qui ont soutenu le livre. Moi, j'ai un succès assez important en ce moment avec mon livre en poche, La Délicatesse. Ça a été beaucoup relayé par les libraires, donc... C'est aussi important d'aller voir l'autre côté de la machinerie.
C'est nous, en fait, l'autre
voilà,
côté de
exactement.
La machinerie.
Mais après, moi, je suis plutôt... Voilà, j'échange beaucoup avec mes lecteurs. J'ai pas du tout de... Enfin, c'est quelque chose qui me plaît bien.
Vous nourrit, en fait, pour
exactement, en fait, c'est complètement. J'ai besoin de cette partie de vie où je voyage. J'ai la chance d'être beaucoup traduit, où je vais à la rencontre des gens. C'est très, très important, très important.
Vous êtes un écrivain voyageur.
Oui.
Alors moi, je vous dois une confession, c'est-à-dire que c'est seulement le deuxième livre de vous que je lis. Je vous ai découvert avec La Délicatesse, justement, dont vous parliez, que j'ai chroniqué justement pour Radio Béton pour l'émission Des Poches Sous les Yeux.
Et donc, très bon titre, ça, Des Poches Sous les Yeux.
Oui.
Ben, ça paraît simple comme idée, en fait.
Et en fait, c'est Radio Béton, vous voyez.
Merci alors d'avoir chroniqué La Délicatesse.
Que j'avais beaucoup aimé, donc
vous irez voir le film ?
Bien sûr.
Il sort le 21 décembre avec Audrey Tautou et François Damiens.
Donc, vous avez réalisé avec votre frère.
Je conseille à tous les auditeurs de Radio Béton, d'aller voir le film. Ouais, les acteurs sont très étonnants.
Mais vous reviendrez nous voir
avec
pour
musique,
parler du film.
Émilie Simon.
Donc, moi, La Délicatesse, j'avais vraiment adoré. Celui-là aussi, hein, je ne vais pas être très objective, mais tant pis. Donc, c'est vrai que vous avez une écriture qui me touche... beaucoup. C'est parmi les formes d'écriture en fait que j'admire le plus, c'est-à-dire une apparente simplicité, mais en fait une écriture extrêmement travaillée, extrêmement ciselée. Et c'est vrai que moi, quand j'ai lu Les Souvenirs par rapport à La Délicatesse, j'ai eu l'impression de lire un peu le miroir de La Délicatesse, puisque celui-là reprend en même temps des échos entre les deux, mais du coup avec une gravité qui est beaucoup plus présente. Et autant La Délicatesse parlait du fait de reconstruire sa vie après la mort, là c'est plus apprendre à vivre avant de mourir en fait.
Pas mal du tout. Ah non, mais c'est vrai que c'est super comme théorie, je vais dire ça maintenant pour synthétiser. La Délicatesse c'était la vie après la mort, là c'est la vie avant la mort.
C'est
assez juste. Je les écris l'un après l'autre, il y a la même tonalité, c'est-à-dire que ça reste quand même des sujets graves au départ, et puis voilà, je le traite avec souvent de la fantaisie, du burlesque et de l'humour. La Délicatesse, c'était une veuve qui subitement rencontrait un Suédois improbable.
Marcus.
Et puis là, bien sûr, c'est un livre plus personnel, je parle de la vieillesse, du rapport aux grands-parents, du rapport à l'extrême vieillesse. C'est ce qu'on est plus ou moins tous confrontés à ça, au rapport au vieillissement de nos parents, de nos grands-parents. Et au départ, c'est très, très personnel et assez mélancolique, assez difficile forcément. Et puis lentement, la vie reprend parce que cette grand-mère est extrêmement vivante, atypique. Et puis, elle ne se résigne pas à vivre dans cette maison de retraite.
Et d'ailleurs, elle va...
Action.
C'est ça.
Action, elle va disparaître pendant 50 pages. On ne va pas savoir du tout où elle se trouve. Et donc, tout le monde va mener une enquête. L'occasion aussi de comprendre sa vie, son passé. Et puis, moi, je parle beaucoup des maisons de retraite, de la difficulté, voilà, pour ces personnes, subitement, de se retrouver dans des... quasiment des maisons de mourants. Hein. Moi, j'ai été assez surpris parce qu'on pousse l'autonomie très loin et... Il y a des maisons de retraite qui sont difficiles, hein, qui sont pénibles à supporter. Quoi.
Et du coup, en fait, on peut dire que dans ce livre, vous parlez presque plus de la vieillesse que de la mort, en fait.
Oui, c'est pas un livre sur la mort, c'est un livre sur la vieillesse, sur l'énergie de vie. C'est un livre sur le rapport entre les générations, puisque je parle de la vieillesse avec les grands-parents, de la retraite avec les parents, ce moment de vie, voilà, où on, une transition un peu flottante. Et puis, de l'âge, peut-être un des points, on n'en parle pas assez. Le livre, c'est quand même l'histoire d'un jeune homme. Entre 20 ans, 25 ans, c'est un jeune narrateur. Et c'est l'aspect de ce moment-là de vie où on ne sait pas vraiment ce qu'on va devenir, le côté début dans la vie d'adulte. Il dit lui-même qu'il est sur le paillasson de la vie normale. Et effectivement, ce tâtonnement, voilà, on ne sait pas du tout ce qu'on va devenir entre 20 et 25 ans. Et c'est quand même un thème majeur du bouquin.
Et du coup, il est sur le paillasson et en même temps, il devient le veilleur de chagrin, comme vous dites, de la vieillesse à la fois de ses grands-parents et de ses parents qui, effectivement, sont à la retraite et se retrouvent...
C'est vrai, il a un rapport de tendresse. Hein. Il veille le chagrin, il est veilleur de nuit lui-même. Il travaille dans un hôtel parce qu'il voudrait écrire, mais il pense que c'est ce qu'il y a de mieux pour pouvoir écrire, c'est travailler dans un hôtel. Mais non, pas du tout. Finalement, il se coupe de la vie. Il se coupe des femmes, des voyages, de tout, de ses amis. Il s'enferme un petit peu et puis... Et puis comme je suis sympa avec lui, je le pousse à vivre des péripéties un peu marrantes.
Il y a une grande ambiguïté. Alors moi, vous savez, je me suis fait avoir. Vous allez peut-être me trouver stupide, mais pendant les 20 premières pages du livre, j'ai vraiment cru que cette fois vous franchissiez le cap et que c'était vraiment autobiographique. Pendant les 20 premières pages.
Mais vous n'êtes pas stupide, d'autant plus que les 20 premières pages sont extrêmement autobiographiques. Mais beaucoup de personnes ont pensé que tout le livre était complètement autobiographique. Y compris quand on dérape dans des moments un peu loufoques. Mais j'aurais bien aimé avoir cette vie, mais elle est quand même assez palpitante. Mais il y a forcément une grande part autobiographique dans ce livre, bien sûr. Et là, je dirais que trois quarts du livre reste quand même une fiction totale. J'aime raconter des histoires. J'aime bien que tous les éléments deviennent romanesques. Donc effectivement, c'est un roman.
Mais c'est ça, je trouve, qui peut guider le lecteur dans le fait de comprendre que ce n'est pas une autobiographie. Mmh. Parce qu'effectivement, on sent le petit grain de sable, quelque chose qui va dérailler un moment. Et puis avec ces souvenirs que vous vous mettez à raconter de façon régulière, qui sont comme des petites vignettes, en fait, tout au long du roman, vous racontez les souvenirs, alors soit des personnages du livre, soit de personnages évoqués, mais presque au détour d'une phrase par moment.
Oui, ça, c'est vraiment l'idée de départ que j'avais. Le livre s'appelle Les Souvenirs, parce que c'est un livre sur les souvenirs familiaux, le passé. Mais aussi, je voulais que chaque personnage soit décrit à travers un souvenir. Mmh. Qu'on puisse comprendre chaque personne qui traverse le roman à travers l'élection d'un moment de son passé. Et y compris, voilà, quand je cite des artistes, effectivement, dans le livre, on a des souvenirs de Modiano, de Gainsbourg, de Wayne Shorter, de Claude Lelouch, Kawabata. Même un souvenir de Alzheimer.
Oui.
Parce que je parle de la maladie d'Alzheimer. Voilà, je me suis amusé aussi à faire en sorte que toutes les possibilités de la mémoire soient présentes dans le livre.
Et vous dites amuser, effectivement, ça crée du coup un jeu avec le lecteur, puisque même, par exemple, quand vous parlez de la gare Saint-Lazare, vous évoquez après un souvenir de Saint-Lazare.
Je m'amuse pour savoir. On ne sait jamais dans le chapitre sur qui ça va tomber. Effectivement, ça c'est une forme d'amusement, mais c'était pareil avec la délicatesse, où entre chaque chapitre, je mettais des résultats de football, ou quand les personnages allaient déjeuner un risotto aux asperges. Deux chapitres plus tard, on avait la recette. J'aime bien l'idée, voilà, de ces respirations, de ces fantaisies. Ça marche, ça, uniquement si le livre est simple. Et pour pas rajouter de la folie à la folie, quelque part. Et donc, c'est des petites respirations, mais qui sont au cœur d'un récit très simple. Quoi.
Oui, c'est vrai que du coup, quelquefois, on se surprend même à retourner quelques pages en arrière en se disant, mais pourquoi un souvenir de telle personne ? Parce que quelquefois, moi pour la gare Saint-Lazare par exemple, j'avoue, je suis retournée chercher en me disant pourquoi parle-t-il de Saint-Lazare à ce moment-là ?
Parce qu'elle prend le train à la gare Saint-Lazare, voilà, et que je me suis amusée, je me suis dit tiens, la gare Saint-Lazare, faisons un souvenir de Saint-Lazare. À chaque fois, voilà, bah, alors il y a une évocation, mais c'est souvent un rapport avec. Par exemple, quand je parle de Claude Lelouch, je cite ce critique qui avait écrit à propos de son premier film. Souvenez-vous bien de ce nom, vous n'en entendrez plus jamais parler.
Oui.
C'est un exemple de souvenir à l'envers.
Alors, il y a une ambiguïté sur le genre, et moi je trouve qu'il y a aussi une ambiguïté sur l'aspect temporel, en fait. On a l'impression que vous êtes dans un entre-deux, où en même temps, c'est, je trouve, une écriture générationnelle, où on retrouve des codes, des façons de vivre. Je sais pas, le paragraphe sur les pavillons, par exemple, qui est des choses qui résonnent pour des gens de notre génération. Et en même temps, votre narrateur a un côté... désuet hors temps, ce qui est un compliment. Hein,
non, c'est vrai, ça vous avez raison. Je sais pas si c'est un compliment ou pas, mais il a cette tonalité-là en tout cas. C'est vrai que c'est un roman qui se passe au début des années 2000, on n'est pas trop dans la modernité, il n'y a pas de téléphone portable presque pas.
Oui.
À part quelques. Après, plus tard, quand il rencontre Louise, mais. C'est ce qu'on m'avait aussi pas reproché, mais de la délicatesse, c'est une tonalité un peu, une sensation qu'on éprouve moins, parce que tout va beaucoup plus vite maintenant. Ce qui émane du livre, effectivement, peut paraître un peu à contre-courant, voilà, d'une vie qui va à 100 à l'heure. Mais le fait même de s'intéresser aux personnes âgées, de prendre le temps de leur parler, de les écouter, il y a quelque chose de... presque de l'ordre de la lenteur et du respect pour le passé, alors qu'on est dans une course effrénée en permanence à l'avenir. Donc peut-être que moi j'ai ça sûrement, j'ai ça en moi, ce côté un peu désuet.
Ça fait du bien, en tant que lecteur en tout cas, vraiment ça fait du bien. Et alors on parlait de cinéma tout à l'heure, puisque vous disiez que vous veniez d'adapter La Délicatesse. Et alors moi justement quand j'ai chroniqué La Délicatesse, j'avais pensé à une référence cinématographique qui était Coris Maki. Par exemple, pour moi, le personnage de Marcus, c'était vraiment un personnage sorti d'un film de Coris Maki, une espèce de poète lunaire, involontaire. Est-ce que, quand vous écrivez, vous avez ces références-là en tête, ou c'est des choses qui vous appartiennent ?
Alors, vous avez raison, à 1000%. D'ailleurs, je viens de rédiger le dossier de presse pour le film qui sort le 21 décembre. Et François Damien, c'est oui. Complètement lunaire, et dans le film, et il a un côté vraiment... personnage des pays de l'Est. Et j'ai mis dans l'interview là, du dossier de presse, j'ai mis en référence très forte Coris Maki. Donc,
je pourrais rédiger votre dossier de presse.
Donc, en fait, oui, c'est vrai, c'est complètement vrai. Et ce qui est drôle, c'est qu'on sort le même jour que son prochain film.
Je voulais vous demander si vous aviez des projets d'écriture, vous êtes en train. Alors là, vous venez de finir un film, donc peut-être que vous n'avez pas trop le temps.
Oui, non, là, je suis un peu cuit. Là, j'ai sorti Les Souvenirs. L'année dernière, j'ai fait un livre sur John Lennon. Et puis, La Délicatesse sort en film. Et puis j'ai la chance que voilà, avec Audrey Tautou en rôle principal, le film soit vendu dans le monde entier, donc je vais voyager un petit peu.
D'accord.
Et non, je vais faire un petit break.
Donc vous allez nous abandonner ?
Pas du tout, je fais des petits allers-retours moi. Mais par contre, non, j'ai aucun projet. Et je suis assez content de ce projet.
C'est bien comme projet, une période de projet.
Ouais,
alors vous attendez quand même, parce que vous êtes sur la liste pour le prix Goncourt, donc peut-être que...
Ouais, j'ai même été favori pendant un bon moment de l'été, ce qui m'a suscité des ennuis et de l'agressivité. C'est pas bon d'être favori.
C'est vrai.
Et puis non, là j'ai plus aucune chance de l'avoir, mais c'est déjà vraiment super d'être sur la liste du prix Goncourt. Et puis j'ai la chance d'avoir un vrai succès public et ça et critique aussi, mais tous les gens, voilà, j'ai pas voulu faire La Délicatesse 2. J'ai voulu évoluer, même si les livres sont bien sûr, c'est le même univers, sont proches. Et les gens auraient pu être voilà déçus, et apparemment c'est loin d'être le cas vu le démarrage assez étonnant du souvenir.
En tout cas, ce n'est pas le mien. Je suis loin d'être décidé.
Non, mais en vente, c'est très impressionnant. Je suis très, très heureux. Ça me surprend d'ailleurs.
Donc vous êtes un homme heureux, en fait.
Non, je suis rassuré dans le sens où j'essaie de continuer à écrire ce que j'ai en moi. Et c'est important pour moi. Je n'ai pas de snobisme par rapport à ça. Je suis heureux d'avoir des lecteurs. Je suis heureux que les lecteurs prennent du plaisir à me lire. Au revoir.
C'est parfait. Au revoir. Merci beaucoup.
Les poches sous les yeux, l'interview, en partenariat avec la boîte à livres.